Bonsoir, bienvenue à tous. Il est des dates qui ne sont pas de simples repères dans le calendrier, mais de véritables jalons dans la construction d'une nation. Le 24 février, une date doublement symbolique pour l'Algérie. D'un côté, la création de l'Union Générale des Travailleurs Algériens en 1956, en pleine guerre de libération, un acte fondateur d'un syndicalisme engagé au service de l'indépendance et de la souveraineté nationale. De l'autre, la décision historique de 1971, portée par le président Fouad Boumediene, de nationaliser les hydrocarbures, une décision qui consacre le recouvrement effectif de la souveraineté nationale sur nos richesses énergétiques et l'indépendance économique. Deux événements distincts, un même fil conducteur, la souveraineté, l'indépendance économique et la maîtrise du destin national. Et depuis ce tournant stratégique, l'Algérie a poursuivi le processus d'édification nationale, bâtir, structurer et consolider son modèle énergétique avec un acteur central, la Sonatrach, créée en 1963, soit au lendemain du recouvrement de l'indépendance nationale. L'entreprise est devenue aujourd'hui un groupe d'envergure internationale, pilier et locomotive du développement de l'économie nationale et instrument de projection régionale. Mais au-delà de la mémoire, que nous disent ces deux anniversaires sur le présent et surtout sur l'avenir? Aujourd'hui, l'Algérie, qui dispose d'une très grande expérience dans le domaine grâce notamment à Sonatrach et une expertise de 60 ans dans le domaine des hydrocarbures et de la pétrochimie, aujourd'hui Sonatrach explore, exploite, forme. En 2026, on passe à une autre phase. L'Algérie, attachée à sa profondeur africaine, partage son expertise et façonne un espace énergétique régional. L'Algérie qui vise à devenir un hub énergétique continental et régional. La formation des cadres, des spécialistes dans les universités, les instituts algériens. Comment la stratégie énergétique algérienne a-t-elle évolué entre affirmation de souveraineté et ambition de leadership régional, voire continental? Dans un monde traversé par les recompositions géostratégiques, la transition énergétique et les tensions sur les marchés, quelle place aujourd'hui pour l'Algérie? Pour en débattre cette émission, trois regards complémentaires, un petit tour de table d'abord. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous professeur Lara Chegrouche. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes expert international en géopolitique nord-africaine, dans les énergies notamment. Bienvenue.
Merci.
Avec nous également Monsieur Arslan Chikhaoui, expert en relations internationales, membre du groupe de travail TRAC 2 des systèmes des Nations Unies. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de votre invitation.
Et avec nous aussi, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Faisal Laraba. Vous êtes vice-président de Sonatrach, chargé de la stratégie, la planification et l'économie. Bienvenue à tous. Bienvenue Monsieur Laraba.
Merci pour votre invitation.
Donc, ensemble, nous reviendrons sur plus d'un demi-siècle de mutations, sur les choix structurants et sur les nouveaux caps que s'est fixé l'Algérie pour consolider sa souveraineté énergétique, tout en affirmant son rôle de puissance stabilisatrice en Afrique et en Méditerranée. Tout d'abord, le 24 février 1971, soit il y a 55 ans, jour pour jour, le président Fouad Boumediene annonce depuis Hasser Mel, alors que l'on célébrait le 15e anniversaire de la création de l'UGTA, il annonce la décision de l'Algérie de nationaliser les hydrocarbures. Une annonce surprise, inattendue, dans un contexte international, les années 70, rappelons-le, marqué par un rapport nord-sud et marqué aussi par la montée des pays producteurs. Quelle a été la portée politique et économique de la nationalisation? Je commence par vous, oui. Professeur Lara Chegrouche.
Je pense, si vous me permettez, rahmat al-shuhada wa la man waqafa wa harrara hadha al-balad. Deuxième chose, 24 février, c'est, à mon sens, sur le plan économique et stratégique, c'est la même portée que la décision qui a été prise pour libérer le pays. Parce que une indépendance, les sacrifices d'un million et demi de martyrs sont, comme on dit, l'acte du 24 février, ça n'a aucun sens. C'est le complément, et je pense, les dirigeants du pays, animés par cette grande culture, cette grande révolution, 54, ont préparé tout. Peut-être médiatiquement parlant, c'était pas préparé, mais son attaque, même le noyau, le modèle, existait. La camelle, l'usine de GNL existait. Certains tuyaux ont existé. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, à l'époque, ont préparé, comme 54, ça a été préparé. Simplement, ils ont réussi, et avec une forme de génie du peuple algérien, Boumediene, il a exprimé ce désir du peuple algérien. C'est le fait de l'union, l'acte uni entre le GTA et la nationalisation des hydrocarbures. Quel est le syndicat à l'échelle internationale qui a un dirigeant martyr à cette idée? Aucun syndicat. Ce syndicat, c'est l'exception en Algérie. Et donc, la décision de l'époque de nationalisation des hydrocarbures, c'est également une exception.
On parle d'une deuxième indépendance, le recouvrement de la souveraineté économique. Professeur Chikhaoui, le 24 février 1971, annonce ou illustre cette indépendance absolue de l'Algérie?
En fait, la décolonisation se fait en plusieurs étapes. Elle se fait d'abord sur le plan politique, et elle se fait également sur le plan économique, et surtout le recouvrement et la reconquête de ces espaces, soit de ces espaces géographiques, mais également de ces ressources en termes de recouvrement. Donc, effectivement, cette décolonisation est passée par la partie économique, et bien entendu, les hydrocarbures ont été les premiers éléments qui ont fait que l'Algérie s'est affirmée en tant qu'État plein et entier en nationalisant les hydrocarbures de manière générale. Hein. Donc effectivement, toute période de décolonisation se fait sur plusieurs années et par plusieurs étapes.
Très bien.
Et là, nous entrons, nous allons en parler certainement, dans une troisième étape. C'est ce qu'on appelle l'émancipation économique de manière globale, avec toute cette diversification, etc.
Très bien, pour rester dans ce rappel historique, la portée politique économique de cette décision de nationaliser, là je me retourne vers vous, Monsieur Faisal Larabat, est-ce qu'on peut dire quand la création et la montée en puissance de Sonatrach était une manière de mettre le bras économique de l'État, Sonatrach, bras économique de l'État, Monsieur Faisal Larabat?
Écoutez, pour nous, ça reste d'abord un choix souverain algérien, un choix audacieux. À l'époque, il faut se rappeler ce qu'était l'Algérie en 1971, mais surtout courageux, et ça a été un acte fondateur avec lequel nous avons abordé un tournant. Nous avons lancé au niveau du gouvernement algérien un outil qu'on appelle aujourd'hui Sonatrach, le groupe Sonatrach, et qui a commencé à se développer déjà un peu avant, mais à partir de 71 a accéléré son développement avec des réalisations majeures sur lesquelles on reviendra tout au long de cette émission, et qui constitue pour nous donc un acte fondateur, une deuxième naissance avec des objectifs à l'époque qui ont évolué pour être ceux de l'Algérie d'aujourd'hui, tournés vers un avenir que l'on espère à Dieu.
Alors justement, en parlant de cet embryon, ce début de construction d'un modèle énergétique souverain, professeur Chegrouche, de quoi justement, quels sont les moyens dont disposait l'Algérie déjà, essentiellement?
Moi, j'adhère et je reviens sur l'idée que tout a été pensé. Rien n'est laissé au hasard, à mon sens. 64, on a son attaque, l'Algérie, a créé une première unité d'exportation du GNL. 64, l'Algérie a créé un grand centre, le CAT, centre des hydrocarbures et du textile. En parallèle à Dar el-Bayda, il y avait l'Institut algérien du pétrole. Tout ça, 64. C'est-à-dire que l'État se préparait parce que c'est un État particulier. C'est-à-dire qu'un État animé par ce que vient de dire, par ce modèle de souveraineté. C'est-à-dire que mes richesses doivent être permettre au peuple algérien de s'émanciper. L'Algérien, le Hamas, parce que si vous remarquez, même sur le plan de beaucoup d'autres aspects, cette volonté, l'Algérien dominé, Hamas, etc., etc., c'est fini. Il a donné le prix, il a payé le prix. Donc il faut accomplir l'émancipation du peuple algérien. Et comment? De quelle façon? C'est de créer un modèle que commandé par les Algériens. Moi, j'étais étudiant dans le domaine des hydrocarbures. Dans le domaine des hydrocarbures, à cette époque. L'appel qui a été lancé, ceux qui étaient à peu près troisième année, quatrième année, même cinquième année, ont quitté les écoles. Ça vous rappelle rien du tout? Ça vous rappelle l'appel de la révolution aux étudiants algériens de quitter les universités, de rejoindre les rangs de la révolution? C'est exactement la même logique. Parce que c'est pensé de la même façon dans l'intérêt du peuple algérien. Donc le modèle, et on discutait tout à l'heure en quelques années, l'Algérie, son attaque a réalisé des choses inimaginables. Elle a commencé à gérer le Burma, elle a commencé à créer ses tuyaux, elle a commencé à algérianiser davantage et énormément ses installations, ses districts, ses chantiers. Et donc, naissance autonome, souveraine d'un modèle économique basé autour de son attraque. Et son attraque, c'est comme on dit, c'est la mère patrie.
Et un modèle économique qui reposait surtout et fort de sa main d'œuvre, de ses travailleurs, d'où ce double anniversaire, d'où l'UGT1, un modèle économique qui puisait sa force de la mobilisation des travailleurs. Monsieur Larabat, vous avez en off rappelé les travailleurs, comment ils partaient motivés vers les unités de production. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus?
Mais écoutez, l'aventure de ce 24 février 71, c'est également des conditions de travail qui sont loin d'être celles d'aujourd'hui. Hein, en 1971, les travailleurs étaient transportés sur des transports de fortune. Hein, on parle de camions à benne, sur plusieurs centaines de kilomètres.
C'était les moyens de bord. Hein. C'était
avec les moyens du bord, mais avec une détermination à exister d'abord, hein, et puis surtout à bâtir l'avenir de leurs propres enfants. Donc à nous aujourd'hui, il appartient également, pour nous c'est un flambeau, c'est un symbole très fort.
Voilà. La ressource humaine reste quand même fer de lance pour toute stratégie économique nationale, pour ne pas rester dans la question des hydrocarbures.
Absolument, la ressource humaine. Je reviendrai sur un petit point, si vous me le permettez. La nationalisation ne s'est pas faite juste comme ça. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu quand même de la ressource humaine derrière qui a contribué. Rappelons-nous, pour ceux qui ne le savent pas, l'histoire de Tapti Rachid qui a contribué à la nationalisation de ces hydrocarbures, parce que la négociation à ce moment-là avait besoin d'un certain nombre de personnages qui soient impliqués, et sans rentrer dans les détails du sujet. Mais la ressource humaine, il y avait la ressource humaine apparente, il y avait la ressource humaine discrète, il y avait les deux en même temps. Et tout ça, effectivement, c'était quoi? C'était cette émancipation, cette volonté de reconquérir, encore une fois, reconquête de nos espaces.
Et cette adhésion nationaliste, patriote, cette adhésion globale, tout le monde mettait la main à la patrie.
Bien sûr, mais parce qu'en fait, n'oublions pas, c'est l'une, je dirais, c'est la seule colonie de l'époque qui était une colonie de peuplement. Mmh. Ne l'oublions pas. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le khamas, c'est quoi? C'est prendre sa place et le citoyen local devient esclave, sujet. Merci.
Ce qui était écrit dans l'histoire.
Tout à fait.
Était sujet. L'Algérie était considérée comme un sujet.
Sur les pièces d'identité de
l'époque. Absolument.
C'est écrit sujet, non citoyen.
Non citoyen.
Et il n'a pas le droit de circuler dans son pays.
C'est écrit. C'était une colonisation de peuplement. Et donc, incontestablement, il fallait reconquérir tout ça. Il fallait reconquérir l'espace physique, hein, les territoires. Il fallait reconquérir les espaces ressources naturelles, mais également reconquérir l'espace culturel. Parce que tout ça n'existait pas avant. On revient. Je pense que la nouvelle génération n'est pas un peu au fait de ce qui s'est passé. Nous sommes des descendants de parents qui ont subi tout cela. Ils ont subi et sur le plan économique, sur le plan du travail, sur le plan de l'éducation et de la formation, etc., etc. Donc effectivement, sans ressources humaines, on ne fait absolument rien du tout. Que ça soit avant, pendant ou après. Et donc la ressource humaine était l'élément central décolonisation, deuxième phase de décolonisation.
Et donc il y a eu une vision avant-gardiste en Algérie des instituts de formation. Les universités se sont mobilisées justement pour la formation de l'élite, des compétences qui allaient gérer ce dossier, prendre en main ce volet économique national. Professeur Chegrouch. Bon,
je pense qu'il faut rendre hommage d'abord aux autorités, au pouvoir public de l'époque. Comment ils ont procédé? J'étais étudiant, je me rappelle un peu. Comment ils ont procédé, simplement? La décision, Boumédia, le gouvernement, tous les étudiants qui arrivent en stade du service national sont affectés d'office sur les chantiers du Sahara. D'office. C'est un ordre. Et les gens acceptaient cet ordre avec plaisir. Un patriotisme inimaginable. Ça, c'est un. Deuxième, ceux qui ont plus de compétences. C'est-à-dire troisième année ingénieur, quatrième année ingénieur, de Polytechnique de Harraj, de Boumerdès, de l'IAP de Dar al-Bayda. Ces gens-là étaient volontaires pour diriger le grand patron de CFP Total. Il est en face. Et un jeune Algérien, il vient d'un douar. Il a vécu la misère coloniale, il prend sa place. Mais ça, c'est ça la ressource humaine. Compétente, même elle n'est pas compétente au sens polytechnique de l'Harraj. Mais il est là, désirant prendre la direction. Et je pense, c'est un des dirigeants de Sonatra qui est là.
Il dit, les jeunes cadres.
Imaginons, on revient marche arrière, et même maintenant, quand ils discutent avec les gens de Exxon ou de Chevron, c'est une autre mentalité. Une autre mentalité. Moi, j'étais dans un grand groupe, membre d'un comité stratégique, c'est une autre façon de voir. Ça. Troisième élément important, c'est que le peuple algérien, même sans savoir, les enjeux applaudissaient de demain. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Applaudissaient de demain comme en 54. Nous sommes tous algériens. Et vous traitez notre pétrole de rouge et les rouges du sang du martyr.
Ça, c'était les prétendus des Français.
Oui,
ils ont été surpris par la réussite
de
l'Algérie. Hein. On a réussi quand même, l'Algérie qui avait réussi à faire fonctionner ces unités. On revient après ce rappel un peu historique des faits. On revient aujourd'hui, 2026. Il faut en parler. Sonatrac ne sait pas rouler les pouces, comme on dit. Sonatrac a avancé, progresser avec des moyens. L'Algérie qui dispose aujourd'hui de moyens colossaux, notamment la modernisation technologique. M. Faisal Larrabah, c'est l'un des axes principaux de Sonatrac aujourd'hui, la modernisation technologique pour être à jour face notamment à la demande, aux enjeux étrangers, à la concurrence.
écoutez, le secteur des hydrocarbures et son attraque, dont son attraque fait partie, est fort de ce savoir-faire, d'une expérience qui a été forgée justement dans l'apprentissage, et s'inscrit résolument vers l'avenir en essayant de développer des technologies, des techniques, en essayant de s'arrimer au wagon justement du progrès à travers aujourd'hui différents partenariats, qu'ils soient sud-sud dans le cadre des développements en Afrique, ou qu'ils soient nord-sud avec nos partenaires traditionnels européens ou même américains ou asiatiques. Donc la richesse qui fait la première richesse de son attrape aujourd'hui, c'est sa ressource humaine, c'est donc son savoir-faire.
Et le développement technologique.
Et absolument, le développement technologique étant partie prenante.
En 2026, que fait son attraque ? Concrètement, que fait son attraque ? Elle explore, elle...
Alors, son attraque aujourd'hui, qui a commencé au départ sur la chaîne de valeur des hydrocarbures à travers ses métiers traditionnels, l'exploration, la recherche, la production d'hydrocarbures, puis elle s'est développée dans la transformation, le transport, pour faire justement du raffinage. Nous avons des dates qui sont clés, 1980 avec la raffinerie de Skikda. Toutes ces réalisations ont fait que son attraque s'est développée dans l'exploration-production d'abord.
Plusieurs gisements ont été annoncés d'ailleurs.
Absolument, oui. Le développement de Hassem Mill dans les années 70, Hassem Saoud. Et puis maintenant, nous sommes allés sur justement des gisements un peu moins impressionnants comme les gisements traditionnels. Nous sommes sur de l'exploration et de la production de gisements peut-être plus modestes, mais un peu plus complexes, qui appellent justement un savoir-faire, une technicité que nous acquérons justement.
C'est une orientation qui s'impose aujourd'hui, M. Larabin ?
Pour le développement d'autres domaines miniers, c'est un impératif. C'est plus qu'une, c'est un impératif. Donc on est justement dans la récupération, dans le renouvellement de nos réserves traditionnelles que l'on produit annuellement. Nous sommes dans la production. Nous sommes justement dans la gestion de gisements qui sont relativement matures pour certains, donc qui appellent des techniques de production un peu plus avancées.
À savoir
toujours, l'IOR notamment, nous avons l'IOR est un groupe de techniques de production de gisements qui se base sur ce qu'on appelle la production assistée. J'entrerai pas dans les détails ici, mais ce qui appelle une technicité, une haute technicité, que nous allons chercher d'abord dans notre expérience professionnelle à nous, dans nos expériences passées, mais aussi au contact de partenaires étrangers qui nous apportent également un complément de savoir-faire pour pouvoir justement gérer ce parc, ces actifs.
Quels sont, je suis tentée de vous poser la question aujourd'hui, quels sont les critères recherchés chez les partenaires étrangers ? Qu'est-ce qu'ils doivent offrir pour qu'on puisse travailler avec, pour qu'on puisse retenir ces partenaires ?
Bon, d'abord, en premier lieu, et historiquement, le métier de l'exploration étant risqué, nous avions tendance, comme partout dans le monde, à essayer de partager le risque d'exploration. Vous savez que nous trouvons, au jour d'aujourd'hui, nous forons énormément et nous avons des taux de succès qui sont relativement autour de 20% à 25% selon les bassins. Donc cela constitue un risque. Nous avons 3 fois sur 4 des échecs et donc des fonds qui sont à perte. C'est un peu la règle du jeu dans l'exploration. Donc nous avions tendance à essayer de s'allier pour pouvoir répartir un peu le risque. La loi algérienne est faite d'ailleurs dans ce sens-là. Au jour d'aujourd'hui, nos partenariats sont plus motivés par une recherche d'expertise à partager et donc nous privilégions le transfert technologique et le transfert de savoir-faire. Nous visons des partenariats qui justement vous nous apportez quelque chose que nous n'avons pas et que nous pouvons apporter également aux partenaires. Vous savez, nous avons également un patrimoine savoir-faire que nous sommes disposés à partager avec nos partenaires.
Et un patrimoine savoir-faire qu'aujourd'hui son attraque, ou l'Algérie via son attraque, partage aussi avec les pays africains, c'est la dimension, la profondeur africaine aujourd'hui. Professeur, Monsieur Chekhaoui, l'orientation vers l'Afrique, les partenariats, les accords de partenariat avec les pays du Sahel vers l'Afrique en profondeur aujourd'hui, c'est une nouvelle démarche. Est-ce qu'on parle d'une nouvelle démarche dans le domaine des hydrocarbures et de la pétrochimie notamment et des énergies?
Tout à fait. Encore une fois, si vous me permettez, j'étais en train d'écouter et une lampe s'est allumée là. Vous savez,
ce qu'on appelle éclairer.
Éclairer, absolument.
Oui, exactement.
Vous savez, on est passé d'une phase où l'Algérien était autodidacte chez son attracte. Donc, la prise de contrôle des hydrocarbures s'est faite par des autodidactes, puisque à l'époque il n'y avait pas de formation, etc. Et j'ai entendu là tout à l'heure une spécificité qui est être assisté, donc des opérations assistées. Donc ça veut dire que nous sommes passés d'autodidacte à compétence. Et vous avez une compétence qui a un savoir-faire déjà, puisque c'est toute cette évolution, et c'est celle-là qui va
exportatrice aussi.
J'arrive. Oui. Et c'est celle-là, la jonction, elle est là, et c'est celle-là qui est en train d'être transmise dans notre profondeur géographique, dans notre profondeur stratégique, pour utiliser un vocabulaire très approprié. La profondeur géographique, c'est l'Afrique subsaharienne, incluant bien sûr le Sahel, mais aujourd'hui, effectivement, l'Algérie a un savoir-faire. Elle a besoin, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, d'un savoir-faire complémentaire, puisque la technologie évolue, etc., etc. Et on l'a entendu tout à l'heure, le partenariat avec les partenaires, c'est essayer d'avoir de transférer un savoir-faire. Je n'ai pas dit de compétences, hein, donc j'ai dit de savoir-faire. Hein. Mmh. Et donc, absolument. Mais également, c'est de prendre d'un savoir-faire acquis sur le terrain par les Algériens qui, eux, aujourd'hui, sont en train de transférer vers d'autres pays, surtout sur le continent. Et effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Algérie voulant être un hub énergétique, ou c'est pas voulant, est en train d'être consolider sa position de hub pour pouvoir s'étendre. Et bien sûr, le transfert se fait par quoi? Par la formation vers l'Afrique, d'accord? Et reconquérir la troisième phase, c'est la reconquête de ses positions stratégiques sur le continent. Après la reconquête de ses espaces au sein de son territoire et de sa souveraineté.
Professeur Chegloch, l'Algérie pour l'Afrique en matière d'énergie est un acteur incontournable. Aujourd'hui, on confirme cette position de leadership continental.
Sur le plan géographique, moi, je disais, et je l'ai dit par écrit, avec tout le respect, il y a deux Afriques. Il y a le Nord, qui tourne autour, qu'on le veuille ou non, quelle que soit la propagande et l'agitation malsaine autour de l'Algérie. L'Algérie est un pôle d'excellence, de compétence, je vais m'expliquer. Et bien sûr, il y a l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est pour l'Afrique australe, un autre espace. Et pour revenir un peu sur ce pôle d'excellence algérien, c'est vrai, Harbi Belmhidi n'est pas un général d'armée, mais c'est un génie. Par comparaison, chaque chose a sa place. En 71, les Algériens qui ont pris leur destin en main, ils n'ont pas fait les grandes écoles. Ils n'ont pas fait Polytechnique ou Saint-Cyr. Ils ont fait juste le CAT et l'école polytechnique de l'Harraj, qui n'était pas une orientation très petite et pas une orientation. Et ces gens-là, ils avaient deux choses. Le désir de réussir, cet désir patriotique, et deuxième, j'apprends. Pourquoi j'apprends? Parce que c'est une industrie, il le sait, il a travaillé dans l'amont. Vous êtes à 40 bars. Le pétrole qui avance, si vous n'êtes pas sérieux, si vous n'êtes pas efficace, vous risquez une éruption d'un gisement, vous détruisez un bien du peuple, et donc les gens étaient sérieux. Quels que soient les problèmes, il y avait association d'un patriotisme et de l'autre d'un désir d'apprendre, de savoir faire. Et ces deux, impressionne l'Afrique.
Et cimenté par le sens de responsabilité.
Oui, puis, impressionne l'Afrique. Il y a beaucoup, des centaines, et moi, c'est une invitation aux autorités et surtout à Sonatrach. Sonatrach et les anciennes écoles de pétrole, de renouer avec ce potentiel nord-africain. Et on a un projet. On a un projet fabuleux que Sonatrach peut l'utiliser. Mmh. Elle l'utilise. De toute façon, Sonatrach est impliquée dans ce projet depuis des années et des années. Mmh. C'est le transsaharien. Transsaharien qui collecte le gaz du Nigeria via le Niger et arrive chez nous. Nous avons des petits gisements.
Le projet qui sera lancé après le mois de Ramadan, ce qui a été annoncé
par les autorités.
Le président de la République.
Le président de la République en personne. Et donc, ce projet-là, il est fabuleux pour deux raisons. Nous avons des petits gisements, petits gisements entre guillemets, hein, autour de Insala, autour de Timamoun, autour d'Adra. Et notre grand gisement poumon, Hassermen, Hassermen, qui peut servir, dans une première phase, d'un hub vers le Galci, vers l'Italie, par le tuyau qui passe par Annaba, Sardaigne et tout là, ou éventuellement vers l'Espagne. L'idée qui est derrière, c'est pas d'exporter davantage de gaz, non. L'idée géopolitique, géostratégique, c'est que de rattacher, de laisser, d'organiser le rayonnement de l'Algérie en tant que puissance régionale.
Et leadership.
Et leadership.
Alors, on est le 24 février, M. Faisal Larrabah, on est tenté de vous poser la question sur du nouveau. Qu'est-ce qu'on peut annoncer aujourd'hui, Sonatrach, en matière d'investissement, du nouveau dans la matière, M. Larrabah? Pour le futur.
Écoutez, l'année 2026 est une année charnière pour nous. Comme vous le savez, nous avons un plan de développement sur les 5 prochaines années qui est au-delà des 60 milliards de dollars, ce qui est très très impressionnant. Et ce plan-là, justement très ambitieux, vise des priorités selon les missions que nous avons, c'est-à-dire aller sur l'exploration-production, c'est la plus grande part du gâteau en matière d'investissement, c'est-à-dire investir dans nos processus d'exploration et d'exploitation de nos gisements. Hein. C'est la plus grande partie qui va constituer ce plan d'investissement. Mais nous accordons également une part non négligeable au développement du raffinage, avec la construction d'une nouvelle raffinerie qui est en cours au niveau de Hassi Messaou, de 5 millions de tonnes par an. Nous occupons également, nous attelons à la construction de deux nouveaux complexes pétrochimiques, hein, parce que la pétrochimie aujourd'hui est un facteur de développement extrêmement important.
Des projets lancés ou...
Nous avons deux projets lancés, le MTBE qui doit rentrer en service dans le courant 2026, et le projet LAB qui va atteindre sa vitesse de croisière, il est en cours de réalisation. Donc ce sont deux projets qui visent pour le MTBE d'abord de réduire la facture d'importation de ce produit-là, qui sert essentiellement c'est un additif pour les raffineries pour la fabrication des carburants. Et également, par rapport au LAB, il s'agit là de fabriquer un produit intermédiaire que nous importons actuellement et qui vise justement, qui est la charge à toute une industrie des détergents. Donc, Sonatrach vise justement d'être une locomotive et de créer des produits de base qui vont à eux également susciter des vocations et pourquoi pas faire des projets justement pour développer des produits de détergents par le secteur public.
Donc aller vers la diversification.
Aller vers l'intégration nationale, c'est notre priorité. C'est-à-dire, essayons, une fois qu'on a réussi à faire du pétrole et du gaz, essayer d'intégrer une industrie qui va justement faire des détergents, qui va faire des plastiques, qui va offrir les carburants nécessaires, que ce soit en essence ou en gasoil, justement, pour accompagner cette dynamique industrielle que vit aujourd'hui l'Algérie. Donc notre mission première, accompagner le développement national à travers le développement justement de nos capacités de raffinage et de mettre sur le marché algérien des produits pétrochimiques phares, qui vont être, eux, à la base d'un tissu industriel. Nous allons également essayer de nous diversifier en matière d'engrais. C'est un programme assez ambitieux. Nous avons commencé depuis les années 2000 dans la fabrication d'un engrais de couverture, l'urée, pour ne pas le citer, à travers la transformation du gaz naturel. L'urée est un, nous en fabriquons aujourd'hui 3 millions de tonnes, 3 millions et demi de tonnes par an. C'est un produit phare, mais qui est un engrais de couverture, qui sert essentiellement aux céréales. Mais à partir de cet engrais-là, on a nourri une ambition. On développe désormais. On vise désormais des engrais composés, de ce qu'on appelle les MPK, qu'ils soient phosphatés dans le cadre du grand projet intégré du phosphate intégré de Bled-Ledba, Skikda, Annaba, ou dans la modernisation de notre parc au niveau de l'usine de Fertial, Annaba et Arzeux. Donc nous programmons, l'appétit venant en mangeant, on essaye d'être de plus en plus ambitieux et d'avoir les moyens de nos ambitions.
Et en matière de création de postes d'emploi, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu sur ce qui a été fait jusque-là? Est-ce qu'il y a du nouveau aussi?
Écoutez, les projets miniers, tant miniers de Rabdbilet et le projet du phosphate intégré d'Annaba visent justement, les autorités visent à développer des pôles, de nouveaux pôles industriels qui vont générer non seulement des emplois directs durant les phases projet, mais aussi des emplois indirects. C'est pour ça que nous visons de faire également, d'étendre les zones industrielles de Skikda et d'Arzeux et de créer de nouvelles zones. On accompagne pour cela le programme de l'État pour pouvoir justement créer non seulement de l'emploi, mais de la matière première pour susciter des vocations.
Un nombre, un chiffre sur les postes d'emploi directs et indirects?
Oui, vous avez écoutez, je n'ai pas les chiffres en tête, cela relève du secteur, mais je sais que nous sommes au-delà des 10 000 emplois, notamment à l'est sur le projet PPI, que nous connaissons un peu mieux que le reste des projets justement du secteur, parce qu'il nous concerne directement en tant que fournisseur d'énergie.
Alors, professeur Chegrouch, la Sonatrach, aujourd'hui, en tant que locomotive qui accélère le pas vers justement l'intégration industrielle, c'est une nécessité, c'est une nouvelle phase pour la nation et pour le pays?
Oui, moi je pense que si ça a un peu la perception, et je parle avec sous surveillance de mon ami, Sonatrach aujourd'hui doit aller vers l'aval, parce que la chaîne des valeurs, plus elle est longue, plus elle est juteuse. Et l'Algérie peut, au lieu d'exporter un certain nombre, on l'a vu dans les granulés, dans les polymères, dans les essences. Par exemple, moi, j'ai discuté avec une personne qui avait la charge de la raffinerie du Skikda, une raffinerie de fioul. L'extension de cette raffinerie par un craquage catalytique.
C'est prévu.
Et c'est prévu, oui. Peut aller très loin. Et ça permet à l'Algérie.
Juste pour rappeler l'info, pour confirmer l'info,
le vapeur craquage de fioul est un projet qui est en cours de maturation et qui va permettre d'augmenter justement, de craquer le fioul pour obtenir du gasoil. Une capacité supplémentaire de gasoil.
Très bien, on revient à vous.
Donc c'est cette nouvelle stratégie de cela. Elle est logique. Pourquoi? Parce que Sonatrach, il ne faut rien reprocher à Sonatrach. Il avait la compétence d'exploiter un puits, un bassin, du pétrole et du gaz. Maintenant, il a suffisamment de compétences, il faut que là, vite et loin.
C'est ça.
C'est un processus tout à fait normal, et à l'avantage de Sonatrach et de l'Algérie, c'est que Sonatrach est conscient de ça. C'est ça ce qui est beau dans l'affaire. Et il vient de le dire. C'est aller de l'avant sur tous les plans, les
et gaz accélérer
le processus de valorisation en aval.
Alors pour aller encore de l'avant et accélérer un peu le débat, troisième phase, monsieur Chehraoui, vous avez insisté sur une troisième phase de après la décolonisation territoriale, la décolonisation économique. Aujourd'hui, on est dans la troisième phase. Est-ce qu'on parle justement de la diplomatie énergétique aujourd'hui?
Absolument. Et moi, j'ai bien aimé, encore une fois, le débat est très intéressant. l'énergie au sens oil and gas, au sens gaz et pétrole. Est un facteur de développement aujourd'hui, d'accord.
Absolument.
Mais de plus en plus, comme vous l'avez dit, il devient de plus en plus un facteur de diversification économique, puisque le processus d'intégration, d'accord, fait que nous avons des industries annexes, hein, qui sont hors hydrocarbures. Bien sûr, elles utilisent l'hydrocarbure, mais elles sont hors hydrocarbures. Donc il y a toute cette diversification économique qui se fait grâce à ce levier hydrocarbure. Le levier hydrocarbure reste central, et on arrive à la troisième phase. Et également, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que c'est un facteur de stabilité régionale. C'est un facteur de stabilité régionale par la concrétisation aujourd'hui de ce projet de gazoduc qui passe, ou de pipeline qui passe par le Niger, et où l'Algérie contribue de manière forte, d'accord, à ce projet-là, pour contenir tout une bonne partie des flux migratoires et une bonne partie des fléaux qui existent ici. Mais pour revenir
Monsieur Chekhaoui, d'autant qu'il s'agit de plus de 600 millions d'habitants en Afrique, hein, qui ne sont pas alimentés, raccordés au gaz. Ce projet-là, à titre d'exemple, permettra aujourd'hui d'aller de l'avant, d'aider ces pays à développer, à aller vers les populations. Est-ce que ce projet rendra service aux populations africaines?
Bien entendu. Bien entendu, parce que ça vous permet de contenir ce qu'on appelle toute cette mobilité. Cette mobilité, elle est liée à quoi ? Elle est liée à la recherche de l'emploi, essentiellement. Plus de 77% de la mobilité, elle est intra-africaine. Elle n'est pas extra-africaine. Je le répète souvent, parce que beaucoup nous laissent entendre qu'il y a une mobilité qui est extra-africaine, c'est-à-dire les populations se déplacent. Il y a 77% de la population qui se déplace dans l'Afrique. Et la majorité sont à la recherche d'emploi. Effectivement, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un facteur de stabilité. Ça nous concerne directement. Ce sont nos frontières. La frontière avec le Niger, la frontière avec le Sahel de manière générale. Ça nous concerne directement. Donc si... Et en plus, c'est de notre responsabilité. Puisqu'aujourd'hui, y compris le Nord global est en train de nous dire, écoutez... la mobilité, vous devez la contenir. Mais comment vous voulez qu'on la contienne? On ne va pas la contenir avec des camps ou des campements de réfugiés. Non, vous la contenez par un développement économique.
Et stabilisation ça, en tant que
absolument,
facteur.
C'est un facteur de stabilisation, et surtout de créer un espace de sérénité et de paix. C'est ça qui est recherché aujourd'hui. Le facteur paix est très important. Parce que pour beaucoup, le facteur paix, c'est un grand mot. Non. C'est à nos frontières. N'oublions pas, nous avons 6000 kilomètres de frontières, dont la moitié, dont 3400 kilomètres, juste avec le Sahel. 3400 kilomètres. Ce n'est pas la frontière. Encore une fois, ce n'est pas la frontière Italo-Suisse, c'est la frontière sahélo-saharienne. Elle est énorme. Et donc aujourd'hui, si l'Algérie, qui a les moyens, alhamdoulilah, merci que nous ayons les moyens de pouvoir être un facteur de stabilité, nous le jouons avec quoi? Nous le jouons avec le levier hydrocarbure, mais également la troisième phase dont on parlait, c'est ces ressources minières, les ressources minières qui sont critiques, qui sont stratégiques, hein, ce qu'on appelle communément les terres rares, hein, entre autres, hein, mais il n'y a pas que les terres rares. Et ça aussi, c'est une nouvelle conquête. La reconquête de sa ressource minière qui aujourd'hui, grâce à cette diplomatie que nous avions abordée, qui est un petit peu, c'est une triptyque. Hein. Il y a une diplomatie de proximité avec une diplomatie économique, mais qui est dont une partie est une diplomatie énergétique. Et d'ailleurs, on le voit avec le Burkina Faso, on le voit avec le Niger, et c'est la diplomatie énergétique. La Namibie qui était là.
Le Tchad, la Libye,
absolument.
L'Algérie qui
tout
revient,
ça,
qui regagne.
C'est un mix de diplomatie, parce que la diplomatie économique et la diplomatie énergétique ou la diplomatie minière, elle vient en complément à la diplomatie institutionnelle, mais également vous avez une autre diplomatie qui vient en complément, parce que ça doit, ça ne peut que qu'avancer de cette manière-là, c'est soutenir des actions. Nous sommes dans un monde qui a complètement muté, et c'est un monde de transactionnel, qu'on le veuille ou pas. Le ton a été donné par les États-Unis d'Amérique. Nous sommes dans un monde transactionnel. Et le monde transactionnel a besoin de quoi ? A besoin de ce type de diplomatie. Une diplomatie institutionnelle, elle est de proximité. Une diplomatie énergétique, une diplomatie des ressources minières, mais également une diplomatie de la société civile. C'est quoi la société civile ? C'est tout le package.
On appelle la diplomatie informelle, non conventionnelle.
Non institutionnelle.
Non institutionnelle, absolument.
Elle n'est pas parallèle,
oui.
Mais elle est complémentaire, elle est non institutionnelle. Il faut que ça soit clair. Encore une fois, je le redis, elle n'est pas parallèle, elle est complémentaire. Oui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme nous l'avions dit en off, l'Algérie a besoin d'exporter. Elle n'exportera pas uniquement du gaz et du pétrole, mais on l'a dit depuis tout à l'heure, elle va exporter des produits dérivés du pétrole, peut-être, certainement, mais également d'autres produits. C'est ça la diversification. Et pour pouvoir faire ça, nous avons besoin de cette société civile qui est composée d'organisations patronales, de chefs d'entreprise, etc. Un chef d'entreprise qui se déplace en Afrique, par exemple, ou ailleurs, est un ambassadeur. Un chef d'entreprise est un ambassadeur. Pourquoi ? L'auditeur doit le comprendre par son comportement, par son attitude. Oui, il va faire du business. Oui, il va être transactionnel, mais également par son comportement et son attitude. Et il va promouvoir le pays et il va essayer de capter des investissements, mais également faire des transactions. Donc il n'y a pas que l'investissement, il y a aussi l'aspect transactionnel.
Et
que tout
ça, monsieur Chekhaoui, dans un cadre ou dans un principe gagnant-gagnant,
l'Algérie toujours
s'inscrit dans ce principe. Il y a quelques jours, l'UA a affirmé encore une fois la question, le principe de solutions africaines aux problèmes africains. Et l'Algérie s'inscrit entièrement dans ce cadre-là, monsieur Chegrouche.
Moi, je pense que, une précision juste avant de répondre à votre question, l'Algérie, je pense, elle ne peut pas rester dans une logique de puissance. Puissance, c'est un bon marchand, il a un comptoir, il vend, il sort. L'Algérie, elle est appelée par son histoire, par sa géographie, par ses ressources, à passer à une autre phase que moi je l'appelle l'éminence. J'ai dirigé une thèse de doctorat sur la diplomatie économique à l'université de Tizi, Mourad Mahmri, qui traite de ces problèmes-là en détail. Et la thèse, elle est disponible et publiée. C'est que quand vous prenez simplement le gazoduc transsaharien, il profite au Nigeria pour résoudre tous les problèmes du nord du Nigeria, problème de paix au Nigeria, sans rentrer dans les détails. Il permet également au Niger, avec une assistance type Sonangaz, de développer un petit réseau de distribution du gaz dans toute la région, avec bien sûr toutes les autorisations possibles de Sonatrach, de la compagnie nigérienne, etc. Et ça permet à l'Algérie, et Sonatrach le sait et elle le fait, de développer la logique du hub. Regardons un peu entre guillemets vers l'ouest, davantage vers l'ouest, Gara Djibilet. C'est exactement la même logique. C'est un tuyau. Et l'autre, c'est un train.
Oui.
L'un, il permet au Niger, au Nigeria, au Niger et à l'Algérie de
et
développer.
Toute la sous-région aussi.
Oui, de développer un certain nombre d'affaires économiques, de donner l'exemple. C'est ça l'idée de l'éminence. Gara Djibilet, peut-être dans 10 ans, Bachar va devenir une grande ville et Tindouf, une grande ville. Nous ne pensons pas en fonction des autres. C'est les autres qui pensent en fonction de nous. Pourquoi ? Si on ne fait pas ça à nous, les Égyptiens, bien pensé de récupérer le gaz de Tchad, le Green Stream de Libye, le tuyau de Libye, c'était une des raisons des événements de Libye, c'est que les Libyens ont voulu aller vers, davantage vers le sud. Et quand vous regardez réellement.
Donc, accès sud-sud.
Sud-sud, notre avenir.
C'est dans ce principe que, que s'inscrit la Sonatrach aujourd'hui en off. Monsieur Larrabat, vous avez précisé que l'Algérie est en phase ou est un modèle africain énergétique. C'est la devise aujourd'hui de la Sonatrach.
Oui, écoutez, l'Algérie constitue d'abord un modèle de réussite qui doit inspirer et qui inspire. Qui inspire. Mais je voulais revenir sur, d'abord, si vous me permettez, une petite minute sur le facteur de stabilisation régionale. Adopter un modèle d'intégration est avant tout la meilleure réponse au risque de choc extérieur. Lorsque nous dépendons de nos exportations d'un ou de deux ou de trois produits, nous courons le risque d'avoir, sous l'impulsion d'événements externes, je parle d'événements géopolitiques au Moyen-Orient, en Russie, Ukraine, qui vont nous impacter forcément. Mais lorsque vous allez sur un modèle d'intégration, vous sécurisez quelque part vos revenus et donc vous bâtissez votre stabilité. Et c'est en étant stable qu'on peut justement exporter ce modèle-là et fédérer dans une région un climat de stabilité, de sérénité dans le développement.
Climat de stabilité, de sérénité dans le développement national, mais aussi continental. Un des principes, d'ailleurs, dans la déclaration du 1er novembre, la profondeur africaine est présente. On parle de droit des peuples de disposer de leurs ressources. Aujourd'hui, justement, on est sur cette lancée. L'Algérie est dans son engagement indéfectible d'aller vers l'Afrique, d'ouvrir la solidarité, encourager au développement des autres peuples. Professeur Cheglouch, après je vous donne la parole, monsieur Cherawi.
Moi je pense que de ce point de vue-là, votre question, elle est importante parce que la réalité, je disais tout à l'heure, juste quelques secondes, c'est pas l'Algérie. L'Algérie est animée par cette volonté sincère, saine et liée à son histoire. Regardez, beaucoup de pays se sont libérés grâce au soutien matériel de l'Algérie. La Namibie, l'Afrique du Sud, le Mozambique, tous ces pays-là se sont libérés grâce. Et aujourd'hui, sur le plan économique, et sur le plan pétrolier, gazier, minier, l'Algérie est un modèle. Est un modèle. Simplement, si nous, on va à un rythme précipité, agité, on n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce que les autres font tout par la propagande, par l'agitation. Je prends simplement l'exemple d'un tuyau, le même tuyau. Il était inscrit comme priorité stratégique pour l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne cherche à comparer la version atlantique, qui est impossible, traverse 12 pays. La version atlantique, 12 pays, et la version qu'on peut appeler algérienne,
trois pays,
et les implications économiques. Et ça, le rôle, bien sûr, des médias, de la presse, des intellectuels, des experts, d'éclairer, c'est tout bénef pour, d'abord, le Niger, qui n'a pas de réseau. Il y a un gros tuyau qui passe, et ben, regardez la Tunisie. À un certain moment, la Tunisie se retransmet, ne peut pas consommer les quantités prélevées.
Les royalties.
Le retrocédé. Oui. Et donc c'est cette idée qu'il faut développer. Allez-y.
Alors, en quelques mots, on arrive à la fin de cette émission. Le temps est vite passé avec vous. Monsieur Cheikhaoui, un dernier mot en cette date anniversaire. L'Algérie 2026. Projection 2060, une augmentation de demande en matière d'énergie. Aujourd'hui, il faut continuer à miser sur le secteur, la diplomatie énergétique, le secteur énergétique.
Oui, tout à fait. Le secteur de l'énergie et des mines.
Voilà.
C'est très important. les mines aujourd'hui, parce qu'avec le Burkina Faso, c'est ça, hein, le secteur de l'énergie et des mines va rester le levier d'abord de développement, le levier d'influence sur le plan international et le levier de positionnement stratégique de l'Algérie.
Merci beaucoup, ça sera votre dernier mot, monsieur Faisal Laraba. Un dernier mot, la Sonatrach aujourd'hui, sur quelle est sa devise à l'avenir? Vous avez insisté d'ailleurs sur ce point-là.
Écoutez, nous avons une date anniversaire, nous avons un symbole, nous espérons en être dignes. En tout cas, nous ne ménageons aucun effort et nous ne ménagerons aucun effort pour stabiliser notre pays et préparer son avenir.
Merci beaucoup, c'était le mot de la fin. Je rappelle aux auditeurs que nous avons eu le plaisir d'avoir professeur Lara Chegrouch, professeur en géopolitique, monsieur Chikhawi Arselen, expert international en géopolitique également, membre du groupe de travail système des Nations Unies, mais aussi le vice-président de Sonatrach, monsieur Faisal Laraba, chargé de la stratégie, de la planification et de l'économie. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute la barre technique et toute l'équipe de la chaîne 3. Au revoir.